Oui, bonsoir. Il me revient d'ouvrir cette soirée sur l'obésité et cette soirée qui est organisée par le CHU de Bordeaux et plus particulièrement le centre spécialisé de l'obésité que portent le professeur Blandine Chérifi et le docteur Maud Mont-Saint-Jean-Henri. Le CHU, c'est les soins, c'est l'enseignement, c'est la recherche et c'est au total, vous le savez ou pas, 1 million de personnes qui fréquentent le CHU chaque année. Parmi les disciplines, il y a une discipline qui s'est beaucoup développée ces dernières années, c'est la santé publique, cette discipline médicale qui s'intéresse non à l'individu, mais aux populations, qui s'intéresse donc naturellement aux épidémies. Et on parle de plus en plus actuellement d'une véritable épidémie de l'obésité. Et donc, face à une épidémie, on a besoin des médecins, ils sont là, et le CHU de Bordeaux donc, et on a besoin aussi des sociologues, parce qu'une épidémie, ce sont des phénomènes individuels, mais aussi des phénomènes collectifs, et on a besoin du regard des sociologues, des ethnologues, des anthropologues, autant de métiers qui viennent à l'hôpital, qui viennent au CHU pour éclairer nos professionnels. Je ne serai pas beaucoup plus long, mais sur ce sujet d'une épidémie assez particulière, on a besoin de votre regard, du regard des médecins, et c'est bien sûr à eux que je laisse la parole sans plus tarder. Merci.
Merci, Monsieur le Directeur Général. Effectivement, juste quelques mots pour confirmer cette épidémie d'obésité. On est passé, on ne va pas vous assommer de chiffres, mais c'est vrai qu'on est passé de un peu moins de 9% de la population adulte française atteinte d'obésité en 1997 à 16% en 2013. Et les prévisions pour 2030 sont assez alarmantes, puisqu'on attend 30% d'individus adultes obèses en 2030, c'est-à-dire... Ce sont les chiffres actuels des États-Unis. Donc la grossophobie, c'est vraiment un thème d'actualité. C'est aussi un thème d'actualité, puisque je pense que vous nous en parlerez tout à l'heure. C'est un terme qui vient d'entrer au dictionnaire en 2019. Donc on est vraiment dans l'actualité. Et donc ce sujet va être traité par Marielle Tools, qui est maître de conférence à l'Université de Saint-Étienne, chercheuse associée au laboratoire Helico. Marielle, vous avez co-dirigé avec Anita Medani le numéro 5 de la revue Les Cahiers de la LCD, Lutte contre les discriminations, intitulé Santé et discrimination. Et vous êtes l'auteur de nombreux travaux sur les questions du corps, du genre et de la sexualité. Et Arnaud Alessandrin, donc vous êtes sociologue à l'Université de Bordeaux, chercheur associé au LACES. Et vous avez co-dirigé l'ouvrage Parcours de santé, parcours de genre. Et vous êtes aussi l'auteur de nombreux travaux sur les discriminations, la transidentité, le genre et la santé. Et puis donc, c'est donc un sujet d'actualité. Puis avec le docteur Mont-Saint-Jean, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc effectivement, nous sommes médecins endocrinologues au CHU de Bordeaux. Et cette conférence est réalisée dans le cadre de la Journée européenne de l'obésité qui a lieu très prochainement. Et en tant que soignant au sein du CHU, dans le service d'endocrinologie, qui est dirigé par le professeur Tabarin, qui s'excuse d'ailleurs de ne pouvoir être là ce soir, mais qui est retenu par une mission d'enseignement. En tout cas, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Et donc, en plus d'être un sujet d'actualité, c'est vraiment un sujet au cœur de nos préoccupations de soignants, et au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Donc, merci beaucoup de nous faire l'honneur de venir traiter devant nous et avec nous ce sujet. Et donc, je vais donner la parole en premier lieu à Arnaud, je crois.
Merci beaucoup. Je vais essayer de respecter le temps. En premier lieu, d'abord, vous remercier de l'invitation à toutes les deux. Et puis merci aussi, Marielle, d'avoir traversé la France pour parler à mes côtés. C'est toujours un plaisir. Ces premières minutes, on va essayer de les consacrer au concept de grossophobie, c'est-à-dire à l'expérience de discrimination, de la discrimination, que subissent, qu'éprouvent les personnes jugées comme grosses, vues comme grosses, qui se jugent grosses ou qui sont diagnostiquées comme grosses. Et diagnostiquées comme grosses, on appelle ça obèses ou en surpoids. Et vous voyez déjà que ce n'est pas la même chose. On est sur des expériences qui ne se superposent pas toujours. Alors, pour débuter cette affaire-là, quelques préalables, histoire que l'on puisse avoir le même vocabulaire. Je ne vais pas forcément parler de personnes discriminées. Moi, je ne suis pas juriste, et donc ce qui m'intéresse, ce n'est pas de vérifier si un dossier est validable en droit, mais plutôt, en tant que sociologue, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les personnes se sentent discriminées. Donc je suis plutôt du côté des émotions, du sentiment, et non pas de la preuve, hein, de la discrimination. Deuxième élément important, en tant que sociologue, je ne demande pas aux gens leur indice de masse corporelle. Je ne vérifie pas si ils ou elles sont gros ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la perception de soi et la perception de soi à travers autrui. Enfin, ce qui m'intéresse, alors pour toutes les discussions autour de l'indice de masse corporelle et pour toutes les polémiques autour de cet indice, je vous renvoie aux travaux de Thibaut de Saint-Paul. Autre élément sur le vocabulaire. On va utiliser parfois, aujourd'hui, en tout cas moi, je vais utiliser, je n'engage que moi, mais Marielle, peut-être que tu emboîteras le pas, le terme de gros ou le terme de grosse. Et Marielle Touze l'a déjà écrit, elle a déjà exprimé ceci, ce renversement du stigmate que l'on connaît avec le mot tel que féminisme, négritude ou gay, s'applique, commence à s'appliquer aussi à ce que Marielle Touze appelle les corps gros. Donc, ce qui pourrait apparaître comme une injure, est en réalité aussi une identification. Enfin, il va être parfois question des personnes grosses, et avec Marielle, actuellement, nous finissons un article sur les personnes grosses, ou jugées comme grosses, ou qui se jugent elles-mêmes comme trop grosses, eu égard à leurs propres normes, ou celles de la société, sur la base des personnes LGBT, lesbiennes, gays, bi-trans, et on voit bien que parler de les personnes grosses, ça n'a pas de sens ontologique, puisque être une personne grosse, si l'on est une femme, un homme, une personne racisée, une personne blanche, une personne gay, lesbienne ou hétérosexuelle, ça peut revêtir des significations très largement différentes. Donc, je m'excuse d'emblée pour la généralisation que je vais pouvoir faire. Nous sommes en 1969, et en 1969, apparaît aux États-Unis une association de lutte ou pour une meilleure acceptation des personnes grosses. Alors 1969, je vous donne un petit peu le contexte, c'est aussi le moment paroxystique des manifestations féministes où les artistes féministes vont montrer leur corps, exhiber leur corps, montrer leur corps avec fierté. Donc le corps n'est plus cet espace de honte qu'il a pu longtemps être, cet espace caché qu'il a longtemps pu signifier. 69 également, c'est aux États-Unis, à New York, les événements de Stonewall, c'est-à-dire la première marche des fiertés. Les corps gays sortent des bars, sortent de la clandestinité et vont s'opposer aux policiers qui les traquent sur des motifs tels que le non-respect des bonnes mœurs. Les corps sont visibles, les corps glissent de l'espace de la honte à l'espace de la fierté, et en 1969, l'association NAFA va épouser les contours de ce glissement en suggérant que être gros, être grosse, ce n'est plus simplement de l'ordre de la maladie, ce n'est plus simplement de l'ordre du stigmate ou de la honte, ça peut être quelque chose de l'ordre d'une identité à revendiquer. Et qu'est-ce qui est à revendiquer dans cette identité? C'est notamment les discriminations subies par les personnes gros et grosses. Alors il va y avoir tout un vocabulaire, tout un champ lexical qui va être un cloud de mots, un nuage de mots qui va être développé. Alors, je les ai mis en anglais, puisqu'à à l'époque, bien sûr, c'est aux États-Unis que ça se développe. La stigmatisation sur le poids, la stigmatisation du corps, la stigmatisation des personnes grosses, tout un champ lexical qui, progressivement, va finir par arriver en France. On est donc sur des mouvements sociaux qui se tiennent la main, mouvement féministe, mouvement gay et lesbien, mouvement pour la meilleure acceptation des personnes grosses, soit mouvement contre la grossophobie. Un des événements majeurs que ces associations vont mettre en avant, c'est ce qu'ils et elles vont appeler le fat-in. Le fat-in, c'est inspiré des die-in, ou des sit-in, c'est-à-dire l'occupation de l'espace public ou l'occupation d'espaces symboliques par des corps qui sont rejetés de ces mêmes espaces. Alors vous connaissez sûrement ça, La semaine prochaine, c'est IDAO, la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Et dans de nombreuses villes, il va y avoir des die-in, c'est-à-dire que des personnes concernées vont s'allonger et simuler la mort pour signifier que, encore aujourd'hui, on meurt de l'homophobie. Eh bien, sur cet exemple-là, les fat-in vont être mis sur pied, vont être chorégraphiés dans des lieux tels que des lieux de service, des lieux d'espace public ou des lieux de santé, pour montrer que ces corps sont présents, pour montrer la présence de ces corps, alors même qu'ils sont mis à l'écart, invisibilisés. Le fat-in, c'est mettre au cœur des espaces d'exclusion ce corps qui est celui des personnes grosses ou des personnes jugées comme obèses, en l'occurrence ici, diagnostiquées comme obèses. On voit donc bien que la question du corps gros, ce n'est pas simplement une question médicale, c'est une question à prendre dans les filets de ce qu'on appelle en sociologie les mouvements sociaux. Il faut attendre cependant 25 ans pour que ces questions arrivent en France. Alors, 25 ans, ça peut paraître assez court, hein, quand on se retourne sur l'ensemble des mouvements sociaux liés à la reconnaissance des discriminations. Quoique, 25 ans, sur le temps d'une vie, ben, c'est une éternité. Et il faut attendre donc 1994 avec une actrice, Anna Zamberlin, que vous connaissez peut-être, qui était connue, entre autres, pour avoir participé à des émissions comme « La classe ». Et Anna Zamberlin va diffuser, populariser le concept de grossophobie dans un livre qu'elle va publier la même année, en intitulant son livre avec le terme de grossophobie. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui invente le terme, elle l'importe des États-Unis, ça ne veut pas dire que c'est la seule à l'utiliser, mais c'est elle qui le popularise, puisque son cas va porter le mot. Son cas va porter le mot, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la réception médiatique qui est faite du cas Zamberlin, il n'est pas encore question de cause. Il est toujours question de cas. Donc on ne s'intéresse pas à l'ensemble des personnes grosses, mais on s'intéresse simplement à ce cas précis qui ose parler de son corps. Il faut attendre les années 2015, 2016 plus particulièrement, avec la création de l'association Gras Politique, hein, donc soit 22 ans après, pour que le glissement du cas à la cause s'effectue. Il n'est plus simplement question de quelques personnes grosses, jugées comme grosses ou diagnostiquées comme obèses qui prennent la parole, mais il s'agit bel et bien, cela a été dit préalablement, de questions sociales, et donc de questions sociales pas simplement médicales en termes de prise en charge ou de remboursement, mais bel et bien de questions sociales en termes d'inclusion, d'acceptation, de déstigmatisation, de dépathologisation, de maintien des remboursements et mouvements sociaux, de création d'associations qui ne soient pas simplement des associations de patients, mais aussi des associations activistes de personnes grosses. On voit bien ici que c'est pas la même chose, être patient ou être une personne grosse. À bien lire les témoignages des personnes qui gravitent autour de ces mouvements, trois mouvements, excusez-moi de la répétition, semblent apparaître. Première tendance, c'est celle de la déstigmatisation. Au fond, souligner le fait qu'il pèse sur les corps gros un stigmate, hein, celui du corps jugé comme débordant, obèse, non contrôlé, et il s'agit de déstigmatiser ces corps. Alors, ça veut dire quoi déstigmatiser ces corps ? Je vous donne trois pistes, on pourrait en discuter, ce sont trois premières pistes. D'abord, déstigmatiser l'idée que la dimension éducative est à l'origine de ce corps gros au sens d'un corps non éduqué, d'un corps mal éduqué, et donc ici, clairement, d'un corps de classe. Et pas loin, d'un corps de race. Qui sont les bons corps, qui sont les mauvais corps, qui sont les bons parents qui éduquent bien leurs enfants. Deuxième tendance, c'est le corps sans volonté. Le corps sans volonté, donc là, une dimension plus individuelle, un corps qui ne se contrôle pas, un corps qui déborde. Je laisserai Marielle revenir dessus, puisque en tant que sémiologue, elle maîtrise mieux ces éléments que moi. Et puis, je cite Marielle Tools, hein, une nouvelle fois, les corps qui sont jugés comme dégoûtants. Et là, on voit bien que la dimension culturelle du stigmate est aussi importante que les dimensions éducatives ou les dimensions qui pèsent sur l'individu. Avec Marielle, nous avions initié des travaux sur cette question de la stigmatisation et on s'était rendu compte que dans de très nombreuses séries, il existait un arc narratif, donc un élément de monstration dans les séries, un élément de discours dans les séries, de scénario, qui dévoilait des corps qui semblaient attirants et au moment du dévoilement, le corps devenait un corps du dégoût. Je donne un exemple. Nous sommes dans des séries médicales notamment, où le chirurgien est tout à fait lui aussi désirable. Christian Troy, par exemple, dans Nip Tuck, tout le monde a trouvé Christian Troy désirable. Et moi aussi. Et il va accoucher avec une personne, une femme, qui a tous les attributs de la jolie femme, selon des normes esthétiques, sociales et visiblement aussi hétérosexuelles, puisque Christian Troy est bien hétérosexuel, malheureusement pour moi. Et au moment où la femme se déshabille, on découvre parfois que c'est une ancienne grosse qui a subi des opérations ou qui a bénéficié, ça, je ne suis pas à sa place, ou bien une personne trans, bref, une rupture dans le récit du beau corps, du corps parfait. Et là, on voit bien que du côté de la déstigmatisation, les représentations, la dimension culturelle a ici quelque chose à jouer. Deuxième mouvement, c'est le mouvement de la dépathologisation, puisque nous sommes face, quand on parle de corps gros, à des revers liés à la psychopathologisation de ces corps. Pour le dire autrement, il m'apparaît que, à la lecture de ces récits de médicalisation des corps gros, le fait d'être gros ou grosse, le fait d'être obèse, soit une pathologie totale. C'est-à-dire que tout se lie au travers de l'obésité. Au moment où l'on rentre dans un parcours de soins, la porte d'entrée est l'obésité. Y compris, si vous venez pour autre chose que l'obésité, nombre de récits témoignent d'une réduction du corps à cette caractéristique. Par conséquent, la pathologie totale que devient l'obésité ou le fait d'être gros renvoie aussi au fait que l'obésité devient une pathologie unique. Il y a ça à traiter et il y a d'abord ça à traiter. Exemple que l'on peut trouver dans les enquêtes que nous pouvons mener, notamment avec Marielle ou avec Anita Maïdani sur les questions de la santé et du traitement des parcours de santé, une personne grosse, non diagnostiquée comme obèse et qui ne souhaite pas avoir d'ailleurs ce diagnostic, qui vient parce qu'elle s'est foulée la cheville et que l'on renvoie d'abord vers une diététicienne. Elle vient parce qu'elle s'est foulée la cheville. L'enjeu ici est clairement celui d'une dépathologisation des parcours de santé au sens d'une totalité du parcours et d'une réduction du parcours au statut d'obèse. Alors peut-être que à force de dépathologisation, on va peut-être, et les mouvements sociaux permettront peut-être de dissiper le sentiment d'une discrimination coupable. C'est de ma faute s'il m'est arrivé tel événement de santé. C'est parce que d'abord, je suis gros ou je suis grosse. Plusieurs fois, là, dans mon exposé, j'ai utilisé les mots de la médecine, de la médicalisation, des parcours de santé. Qu'en est-il des mouvements de médicalisation et des tentatives de démédicalisation des corps gros? On voit ici une sorte de paradoxe. Si la maladie dite de l'obésité est une pathologie, qu'en est-il des autres corps qui sont gros sans être malades? Les corps gros peuvent-ils être des corps non médicalisés? Peuvent-ils aller bien? Non, mais ça peut paraître bête comme question. Mais quand on voit les témoignages de ces personnes, et notamment quand on regarde les chiffres sur la grossophobie dans les services de santé, eh bien, on est autorisé à poser la question. Alors, qu'en est-il de la démédicalisation? Premièrement, c'est la démédicalisation du côté des représentations collectives. Alors, avec cette ambivalence, puisque du moment où l'on est jugé comme étant un ou une patiente, un ou une malade, alors il y a de la reconnaissance, alors il y a de la prise en charge, mais la sociologie de la santé le dit à tue-tête, le statut de patient, comme la sociologie du droit d'ailleurs vis-à-vis du statut de victime. Le statut de patient comme le statut de victime sont des statuts qui permettent la prise en charge et en même temps, ce sont des statuts qui stigmatisent. Et les deux à la fois. La démédicalisation, c'est aussi démédicaliser les narrations individuelles. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des déprises, des récits, des corps gros vis-à-vis de leur propre parcours de vie et leur propre parcours de santé ? Quand on regarde les premières biographies sur l'obésité et sur les corps gros plus généralement, le champ lexical de la médecine apparaît prédominant, hégémonique. Or, aujourd'hui, quand on regarde les chaînes YouTube des jeunes YouTubeurs ou des jeunes YouTubeuses qui sont gros ou qui sont grosses ou qui sont en surpoids, on voit un vrai glissement dans la narration, dans la manière qu'ils et elles ont de réciter leur corps, de traduire leur corps, de raconter leur corps. Bref, est-ce que démédicaliser, c'est pas aussi changer le vocabulaire ? Par exemple, dire que être gros ou être en surpoids, plus qu'une souffrance, c'est d'abord une épreuve. La vraie différence étant que la souffrance, on la soigne, l'épreuve, on la résout. Et vous voyez bien que quand il s'agit de soigner, on appelle des médecins. Quand il s'agit de résoudre, ah, le champ des possibles pour résoudre un problème est beaucoup plus large. Et puis la médicalisation pose aussi la question des résultats chirurgicaux, des ambivalences en termes de résultats chirurgicaux. Marielle, tu auras peut-être quelques chiffres sur ces questions. Mais quand on pose la question à la Haute Autorité de Santé et quand on regarde le rapport de la Haute Autorité de Santé, on voit bien que les tentatives de démédicaliser ou en tout cas de dérembourser ne sont pas loin. Alors, qu'en est-il de cette tension entre continuer à être pris en charge, être déstigmatisé, dépathologisé et maintenir un remboursement ? Comment maintenir ça dans une même chorégraphie ? Sur cette question de la grossophobie, le droit est assez clair. Il dit que les discriminations face à l'apparence sont condamnables. Alors elles sont condamnables dans les injures, publiques ou privées. Elles sont condamnables aussi dans les discriminations, qu'elles soient directes ou indirectes. Bref, toute discrimination commençant par grosse quelque chose, il y en a, puisque toute discrimination commence par sale quelque chose ou grosse quelque chose, comme s'il fallait un supplément à la discrimination, eh bien cela rentre dans le champ pénal de la discrimination et de l'injure à l'encontre de l'apparence. Les apparences en droit, ce sont deux choses, des apparences qui sont inaltérables et modifiables. Les apparences altérables sont plutôt des apparences de type piercing ou tenue vestimentaire, là où on peut juger le surpoids ou l'obésité comme des caractéristiques moins altérables, en tout cas dans un temps court. Donc la loi, elle est claire, on ne peut pas discriminer, et ce, peu importe le secteur, que ce soit dans l'espace public avec les injures, que ce soit dans le travail, bien évidemment, mais que ce soit aussi dans l'espace de la santé. Puisque là se tient un paradoxe, dans l'espace de la santé, dans l'espace du soin, qu'en est-il des discriminations ? Bref, peut-on être maltraité dans un espace de traitement ? Le droit, je disais, il est clair, cependant, il est troué, comme à chaque fois que l'on parle de discrimination, puisque le droit accepte des discriminations licites en termes de discrimination liée au poids. Si des questions de sécurité ou si des questions de santé viennent contredire la lutte contre les discriminations. Par exemple, lié au poids, on peut penser à l'anorexie, si une mannequin est embauchée alors que son poids ne correspond pas à des critères de santé. Puisqu'aujourd'hui, toute embauche de mannequin nécessite le passage devant un ou une médecin qui atteste que cette personne, en tout cas la mannequin, n'est pas malade ou ne met pas en péril sa santé. Donc, il existe des exceptions au droit à la discrimination en matière d'apparence liée à l'obésité ou à l'anorexie. Je passe sur ce que ça coûte en droit, la discrimination. La conclusion, c'est beaucoup. Mais j'aimerais vous donner quelques chiffres pour vous convaincre, mais si vous êtes venu ici, vous êtes déjà convaincu, je prêche des convaincus, que la grossophobie, ce n'est pas un phénomène satellitaire aux discriminations, puisque dans l'échelle du droit, si le premier critère de lutte contre les discriminations, c'est l'apparence, il y a 25 critères de lutte contre les discriminations reconnus dans le droit. 25. Et le premier dans le droit, dans la liste que fait le droit, c'est l'apparence. Ça veut bien dire que l'apparence, ce que l'on voit, d'ailleurs on le dit, ce que l'on voit en premier, est le premier facteur de discrimination. C'est donc bien que les discriminations à l'apparence existent, et surtout qu'elles demeurent. Qu'elles existent, vous n'en doutiez pas, mais elles sont massives. Vous avez à chaque fois les petites références bibliographiques, si vous voulez renvoyer à vos lectures, à des articles ou à des livres. 72% des personnes obèses ou en surpoids rapportent que la famille était la première source, la plus fréquente, de préjugés à leur égard sur leur poids. 72%. 69% des femmes obèses ou en surpoids disent avoir subi des regards jugeants sur leur poids par des médecins. Et avec Marielle, l'année dernière, nous sortions d'une enquête, je l'ai déjà dit, sur les LGBT, donc les lesbiennes, gays, bi-trans et les discriminations, qui portait sur la santé, avec trois volets, la cancérologie, la santé scolaire et la bariatrie. Eh bien, je peux vous assurer que du côté de la cancérologie, comme du côté de la santé scolaire, comme du côté de la bariatrie, il n'y avait pas un espace où la grossophobie n'apparaissait pas. Il n'y a pas d'espace où les discriminations liées au poids se résorbent au point de disparaître. 63% des enfants au collège disent avoir subi ou entendu des remarques sur leur poids ou celui de leurs camarades. Du harcèlement, du cyberharcèlement, et on voit que les discriminations sur le poids ne sont pas des épiphénomènes dans les déplacements des gens, dans les déplacements scolaires, dans la cour de récré, dans les déplacements de santé, pour aller d'un espace de santé à un autre, dans les déplacements professionnels, dans le recrutement, ou dans les démarches avec le public, ou avec des administrés, par exemple. Non. La grossophobie, d'ailleurs, comme l'ensemble des discriminations, sont à ce point massives qu'elles subsument l'ensemble des espaces dans lesquels les personnes peuvent vivre ou que ces personnes peuvent traverser. Un des meilleurs exemples, je ne dis pas meilleur parce que c'est mon enquête avec Madame Johanna Dagorn, je ne sais pas pourquoi je dis Madame alors que c'est une pote, c'est que c'est un exemple local. C'est un exemple local, une enquête entre 2015 et 2018 qui a été réalisée en Aquitaine et particulièrement à Bordeaux. Et on pose la question aux femmes, qu'est-ce qu'elles vivent durant leur déplacement ? Alors, elles vivent plein de choses. Des choses agréables, pas agréables, subies, imposées, non imposées. On leur demande, entre autres, si elles ont été discriminées. Et lorsqu'elles ont été discriminées, ou regardées, ou injuriées, on leur demande sur quels critères, selon elles, elles ont été discriminées, injuriées. Bref, quand est-ce qu'elles ont subi des violences, qu'elles soient symboliques, le regard, des violences verbales, l'injure, ou des violences physiques, des agressions. 65% d'entre elles disent avoir été discriminées sur le critère de leur poids, pour celles qui sont discriminées sur leur poids, plus de 65% disent l'avoir été plus de 5 fois au cours des 12 derniers mois, soit quasiment une fois tous les deux mois, là où seulement, entre guillemets seulement, 30% de nos répondantes, en moyenne, affirment cette fréquence. Donc plus de deux fois plus pour les personnes jugées comme grosses. Autre élément, en moyenne dans nos enquêtes, les mêmes enquêtes, entre 43 et 55% des répondantes, ce sont des femmes, disent avoir évité des lieux de peur des discriminations, ici des discriminations sexistes et grossophobes. Mais concernant les personnes vues comme grosses, ce chiffre monte à 68%. Plus de deux tiers des personnes vues comme grosses évitent des espaces de peur des discriminations. C'est-à-dire que ces personnes subissent une coupure en termes de citoyenneté. Elles ne sont pas citoyennes comme tout le monde dans l'espace public. Elles ne sont pas citoyennes comme tout le monde dans l'emploi. Elles ne sont pas citoyennes comme tout le monde dans les services de santé. dans les collèges, dans les lycées, y compris dans leurs familles. L'année dernière, en septembre, il y avait ici une conférence sur les mobilités et je m'arrêterai là pour laisser la parole à Marielle, mais je me rappelle de ton bon mot. Lorsque tout le monde parlait de mobilité, de rapidité, de mobilité, de rapidité et de mobilité rapide. Et tu t'étais interposé très paisiblement à l'ensemble des intervenants et des intervenantes en leur disant « Le droit à la mobilité est super, mais qu'en est-il du droit à l'immobilité ? Du droit à se poser ? Bref, qu'en est-il de ce droit qui renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, à la présence de ces corps invisibles ou qui s'invisibilisent eux-mêmes de peur des discriminations, des injures ou des regards, puisqu'ils et elles évitent des espaces publics, mais aussi des espaces privés. Qu'en est-il de ces corps qui, je vous le disais, en 69, faisaient des fat-in, c'est-à-dire mettaient dans le lieu les corps qui étaient exclus. Et là, on reste encore en suspens, c'est vrai, de la présence de ces corps quand on regarde l'aménagement des villes. On reste encore en suspens quand on regarde l'ergonomie des salles de classe. On reste encore en suspens quand on regarde l'efficacité, ou plutôt l'hypo-efficacité du droit en matière de lutte contre les discriminations grossophobes, puisque, à ma connaissance, aujourd'hui, sur la grossophobie, il n'existe qu'une jurisprudence. Vous la connaissez peut-être. En 2005, me semble-t-il, Air France avait fait payer à une personne obèse deux sièges. Cette personne avait porté plainte. Air France a été condamnée, mais de manière ambivalente, puisque Air France a été condamnée non pas parce que la personne avait été discriminée en tant que grosse. Air France a été condamnée parce que la compagnie n'avait pas assez bien stipulé les règles de déplacement. Et oui, en 2005, la compagnie avait dit que pour les personnes grosses, il fallait payer deux sièges, mais surtout si l'avion était complet. Et donc, il revenait à la compagnie de dire que l'avion était complet. Or, elle ne l'avait pas précisément fait. Et puis, la compagnie avait été gentille, elle offrait, je crois, moins 35% sur le second siège acheté. Acheté obligatoirement, donc imposé. La Cour de cassation a jugé, bien sûr, la situation discriminante, mais on voit bien que l'apparence ici n'est pas un critère aggravant. Hein. De même que, paradoxalement, la discrimination sur l'état de santé. On a donc une personne diagnostiquée qui n'est pas reconnue comme victime de discrimination sur l'état de santé étant un critère de discrimination. Quand je vous disais que la reconnaissance du statut de malade et donc de patient est un statut ambivalent, hein, on se situe bien là, hein, dans ce chemin de crête entre la reconnaissance et le manque de reconnaissance. Je m'arrête là et j'imagine, Marielle, qu'on va pouvoir continuer à discuter sur ça, sur un ton plus pédagogique, puisque tu as plein d'images à nous raconter. Raconte-nous les images, Marielle.
Bon, je vais essayer de reprendre le flambeau après cette intervention brillante d'Arnaud. Juste pour situer, donc, moi, je me situe du côté des pratiques. Je suis plutôt anthropologue en communication. Donc, mon travail, vous m'entendez bien, là, ça va. Mon travail, c'est vraiment du côté des pratiques de corps. Donc, je ne suis pas tant sur les chiffres. Je pense que je vais te décevoir sur plein de choses. Je me suis dit, je vais vous raconter aujourd'hui plutôt des cas concrets, des pratiques. Et en me disant, première chose que je me disais, on connaît mal les personnes grosses. Voilà, je suis partie de cette phrase-là. On connaît mal la grossophobie, mais comme toute phobie, c'est évidemment une méconnaissance avant tout de l'autre et un rejet à partir de cette méconnaissance. Alors là, c'est une photo que j'ai prise et que je trouvais, juste dans notre quotidien, vos jeans s'appellent taille normale. Et les choses commencent comme ça. Voilà, les secteurs dans lesquels on se situe dans des tailles normales, ou on se situe ailleurs. Alors, je parle souvent du syndrome H&M, même si H&M change. Je vais commencer tout de suite par un cas pratique. Je vais essayer de vous en raconter plusieurs. Vous savez, c'est-à-dire que lorsque vous ne faites pas donc une taille normale, eh bien, où est-ce que vous pouvez trouver un pantalon ou un vêtement à votre taille ? Et quels sont donc finalement les moments de vie où il est autorisé d'être grosse ? Eh bien, c'est quand vous êtes engrossée. Je me permets comme ça, hein, des jeux de mots, de glisser comme ça. Et donc, il vous faudra monter au premier étage, au rayon maternité, où là, vous aurez un petit espace qui vous sera défini et qui sera pour vous, et dans lequel vous pourrez trouver des vêtements. Et puis, ma foi, si vous ne trouvez pas, ce n'est pas grave, il y a les tailles élastiques des vêtements de maternité à côté, dans lequel vous pourrez essayer également de vous faufiler. Pour le coup, ça coupe court à plein de choses parce que, en fait, j'essaye de reprendre directement à partir d'Arnaud. Donc, je ne vous ai pas cité les chiffres, mais effectivement, en termes d'épidémie, j'aurais pu vous dire, c'est 2 milliards maintenant de personnes à travers le monde qui sont concernées par l'obésité. C'est aujourd'hui, ça y est, plus de 600 millions d'enfants qui sont concernés par l'obésité de moins de 5 ans. C'est l'épidémie la plus importante qui est vécue aujourd'hui. Et donc, est à la fois mal aimée, mal connue. Et on parle beaucoup de prise en charge, mais pas seulement médicale, mais effectivement, il y a une prise en charge à la fois dans l'espace public, dans les médias. Et on va essayer de voir aujourd'hui où on en est un peu de tout ça. Le syndrome HM permet de dire, pour pas vous assommer de chiffres, mais tout ça, on le mettra sur le site, on a vu, donc il n'y a pas de souci là-dessus, montre qu'il y a déjà creusé un écart important entre les hommes et les femmes. Les femmes seraient plus concernées par l'obésité. Ce que l'on retrouve également dans celles qui décident, dans les personnes qui décident de réaliser une opération bariatrique, c'est-à-dire une opération de l'obésité, où c'est massivement des femmes, c'est 90% de femmes qui décident de se faire opérer. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en termes de discrimination, la grossophobie, ça concerne aussi, c'est genré, ça concerne les femmes. Parce que pour les hommes, pas de problème de trouver une taille XXL parmi les autres vêtements. Après tout, être gros chez un homme, c'est pas vécu comme être grosse chez une femme. C'est la preuve que vous êtes fort, vaillant, costaud, et il y a encore une différence de traitement importante à ce niveau-là. J'ai essayé de prendre plein de notes pendant que tu parlais, Arnaud, pour me dire, allez, j'ai essayé de réagir sur deux, trois trucs. C'est toujours la partie que j'essaye de dire. Obésité, c'est une maladie, c'est une pathologie. Corps gros, c'est un jugement. C'est important d'insister là-dessus parce que corps gros, si ça renvoie à un jugement, eh bien en fait, ça fait le lit aujourd'hui, on le sait, on en a les preuves, de tout ce qui concerne les troubles alimentaires. Voilà. C'est-à-dire, cette question du jugement, je suis gros, je suis grosse, et là encore une fois de plus, massivement du côté des jeunes filles, bien entendu, va venir faire le lit de tous les troubles alimentaires et de l'anorexie par cette vision déformée du corps et de se penser grosse. Donc, dire de quelqu'un il est gros ou dire de quelqu'un qu'il est obèse, c'est deux choses très différentes. Quand vous dites obèse, vous le désignez dans une catégorie malade. Vous désignez cette personne est malade. Et grosse, vous le désignez comme un jugement esthétique qu'on porte sur quelqu'un. Donc déjà, c'est des choses importantes. L'obésité, juste quand même pour le dire, parce que je ne crois pas qu'on l'ait dit, mais on va juste le rappeler, même si ça paraît évident, c'est une maladie multifactorielle. Et pas simplement qui s'arrête à l'alimentation. Voilà. Alors effectivement, aujourd'hui, les campagnes de prévention disent « manger, bouger ». Vous vous rendrez compte qu'il n'y a même pas une phrase complète. On ne met même pas un sujet, verbe et complément. Ça serait trop compliqué. On va mettre que des ordres. Manger moins, bouger plus. Et on est sur quelque chose qui ne tiendrait qu'à l'activité physique. Mais ça, c'est ce que veut nous prouver. Il y a encore une étude dans Le Monde qui est parue il y a deux jours qui montre toute la stratégie de Coca-Cola en termes de marketing et de recherche pour dire qu'avec de l'activité physique, vous pouvez boire autant de boissons sucrées et tout ce que vous voulez, vous ne grossirez pas. Voilà. Ça leur coûte quand même quelque chose comme 8 milliards depuis qu'ils ont commencé ces études pour venir mettre en place une stratégie appuyée que ça passerait que par l'activité physique. Donc cette réduction, en termes de maladies multifactorielles, il y a évidemment également, ça veut dire des facteurs psychologiques, des facteurs métaboliques, des facteurs, je compte sur vous, génétiques, merci. Voilà, enfin, il y en a beaucoup. Alors ça, c'est le premier point. Donc c'est une maladie extrêmement complexe à prendre en charge, qui demande donc une prise en charge pluridisciplinaire. Le second point, c'est une maladie chronique, comme le diabète. C'est des maladies dont on ne guérit pas. C'est des maladies dont on peut soigner les symptômes et les chirurgies bariatriques et les prises en charge, etc., vont dans ce sens-là. On peut soigner les symptômes, mais on n'en guérit pas. Et là aussi, c'est important de le dire, et ça enlèverait peut-être également un certain point, une certaine culpabilité, de dire que cette prise en charge, elle se fait sur du long terme, sur du temps long, et elle est pluridisciplinaire. C'est une sacrée maladie, à prendre en charge. Pour dire deux, trois trucs là-dessus, pour reprendre là-dessus. Dans les parcours bariatriques, excusez-moi, ça fait partie, alors dans mon étude, dans les études anthropologiques qu'on a menées avec Arnaud, on a suivi une cohorte de 400 patients à Saint-Étienne, en amont de l'opération et après l'opération. Donc voilà. Aujourd'hui, en gros, quelle que soit l'opération, et vous me contredisez, enfin vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, mais il y a seulement 30% en gros de réussite. Voilà, sur les opérations. Et selon le type d'opération qu'utilisait, il y a même encore beaucoup moins. Voilà, donc c'est pour montrer que là-dessus, on travaille de plus en plus l'ARS, la HS, avec les éducations thérapeutiques personnalisées auprès des patients. Donc ça passe également par de l'éducation, mais comme dans d'autres maladies chroniques, c'est-à-dire comme dans le diabète. Et ça montre aussi le succès de ces approches-là. Et c'est-à-dire aussi, c'est tendre à rendre les personnes qui souffrent d'obésité ou qui ont ces symptômes-là, à devenir autonomes avec leurs symptômes, avec leur maladie. Donc, pour montrer que ces prises en charge sont aujourd'hui complexes. C'est une... on connaît mal les personnes grosses et elles-mêmes ont des représentations intériorisées qui sont effectivement problématiques. Et aujourd'hui, effectivement, enfin, les images, je voulais vous montrer un peu ça. Alors, je fais un pied de nez. On dit c'est Journée européenne de l'obésité. Et je me dis, que fait les Journées européennes d'obésité en termes d'image et de représentation? C'est comment qu'on nous invite et qu'on nous incite à venir aujourd'hui. Voilà, vous êtes venus, vous n'avez pas vu la tête d'Arnaud ni de moi, vous avez lu un titre, vous êtes venus pour. À partir de quelle image? C'est quoi les représentations qu'on vous a données? Alors, il y avait celle d'aujourd'hui, et je me suis lancée pour vous montrer un petit peu. Alors, ça, c'est en 2012. Les Journées européennes de l'obésité. Les affiches sont créées par le CNAO. Alors, le CNAO, c'est le collectif national des associations des obèses. Donc, c'est des personnes obèses. Hein, d'accord? C'est en tout cas le collectif qui les représente, qui produit les images. Alors, je vous en montre quelques-unes. Là, c'est « Je m'occupe de ma forme et de mes formes ». Donc là, on est bien sur un jugement à la fois celui de la santé, hein, ma forme, ok, mais également sur mes formes et mes formes esthétiques. On a affaire à une femme blonde, la bouche entrouverte, avec un rouge à lèvres, je ne sais pas comment on dit, brillant, qui tient des petites haltères roses dans les mains, au cas où on aurait doute que ça soit une fille, parce que la poitrine prépondérante qu'on vous met sous le nez, hein, on ne sait jamais si vous en avez pas, si vous auriez des doutes, elle est blonde. Hein, ça nous renvoie aussi à tous les critères de la bouche entrouverte, le regard en l'air, des aubergines en guise de bigoudi dans les cheveux, hein, le décolleté vers nous et qui tient ses petites haltères à la main rose avec un ruban qui tourne autour d'elle. En termes de représentation, pour justement, puisqu'on est sur la question des discriminations et donc des représentations, on a quand même une image. Alors, je vais vite, mais je reprends ça avec vous. La plus grande étude qui est produite chaque année, c'est une étude épidémiologique, c'est l'étude OBEPI qui produit un rapport chaque année sur l'obésité en France. En gros, que dit cette étude? Alors, cette étude, je vous ai dit, j'en ai déjà donné quelques chiffres. 16% de la population aujourd'hui est à présent concernée par l'obésité en France, avec une prévalence du côté des femmes par rapport aux hommes. Et cette étude montre également, donc effectivement, on a vu les milieux ruraux, montre également que ça touche des populations plutôt défavorisées, avec va avec également comme stigmate un niveau d'éducation également plus faible. Donc ça finit par vous tracer comme ça un profil type où il s'agirait plutôt d'une femme avec moins d'éducation, peu d'éducation, pauvre et grosse. D'où le fait peut-être que, je me dis, à relier. Peut-être que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à nous faire des phrases complètes quand on s'adresse à ces populations-là. Vous remarquerez que dès 2012, et peut-être que c'est pour ça qu'on a affaire à une dame blonde, que je ne jugerai certainement pas obèse. Je ne suis pas sûre que cette dame blonde, on puisse la juger malade à partir de cette image. Comment l'amener là-dessus. Allez, je vous en montre d'autres, on continue. Alto régime, restons gourmands de bonne santé. Alors celle-là, c'était en 2014. Et tout comme moi, vous êtes d'accord quand même pour dire qu'il ne s'agit certainement pas d'une femme obèse que vous avez en photo. Donc on est toujours sur les femmes, hein. Vous noterez quand même hein, que ça reste la cible privilégiée de ces journées européennes de l'obésité. On a une pin-up. Elle a une robe à pois, rouge, un petit bandeau dans les cheveux, très années 50. Elle a quand même les jambes en l'air. Alors, on était déjà dans quelque chose d'assez sexuel dans la femme précédente, la bouche entrouverte, maquillée outrageusement, le décolleté en avant. Cette fois-ci, elle a quand même les jambes en l'air, hein, il faut le dire. Elle a la main glissée sous le jupon. Alors là aussi, il faudra m'expliquer pourquoi. Avec un chat devant elle. Et alors là, malheureusement, je n'aurai pas le temps de tout vous refaire. Mais dans l'histoire de l'art classique, en sémiologie, et en termes de symbolique, lorsque vous avez un chat dans une image, ce n'est jamais un chat, sachez-le, c'est une chatte. Et c'est toujours un référent sexuel depuis le Titien et le Tintoret. Donc on peut remonter au moins au XVIe siècle. C'est un symbole caché de la sexualité féminine mis dans les œuvres. Donc voilà. Je ne doute pas que le graphiste ignore tout ça, hein, toute évidence. Sinon, il ne l'aurait pas fait, évidemment. Mais on va dire que les inconscients, là, pulsent dans ce type d'image. Et alors, voilà. Donc, ça renverrait également l'idée, mais on le verra après. Allez, on continue. Alors, celle-ci, elle date de 2016 ou 2017. Voilà, c'est celle de 2017. Le point levé contre l'obésité, information, prévention, action. Alors, pour la première fois, on a un petit bedon. Jusqu'à présent, elle était quand même plutôt pulpeuse. Hein, donc, là aussi, ça interroge. Plutôt pulpeuse, c'est-à-dire, quand on parlait tout à l'heure du corps du dégoût, quand tu parlais de ça, hein, parmi les critères, vous voyez, le dégoût est tel qu'on ne peut même pas vous produire des représentations. Même pour la Journée européenne de l'obésité, le CNAO, le collectif des personnes obèses, ne peut pas produire d'image de l'obésité. Voilà, c'est irreprésentable, tellement cela renvoie justement au rejet, au dégoût. Voilà, et on vous met finalement des personnes rondes, tout au plus, pulpeuses. Et quand je vous dis que ça fait le lit des troubles alimentaires, voilà, c'est-à-dire que la personne qu'on nous montre là, juste avant, on vous dit en gros qu'elle est obèse. D'accord ? Elle est associée en tout cas à un discours sur l'obésité. Comment voulez-vous ? Enfin, vous vous rendez compte l'aberration de ce quoi dont ça nous plonge, de personnes qui, à partir de là, se disent avec une taille 40, ça y est, je suis obèse, il faut que je commence, voilà. Et ça, c'est quand même le discours officiel porté. Voilà, donc c'est très problématique, ce type d'image. Dans celle-ci, on a enfin un petit bedon qui dépasse. Mais là encore, on a... voilà, vous remarquerez également que alors, jusque présent, toutes les images qu'on a dites, c'est racisé. Elles sont toutes blanches. Elles sont blondes, elles sont blanches, elles sont pas grosses. Enfin, en termes de discrimination, franchement, on fait le topo en plus. Hein. C'est le combo gagnant à chaque fois. Et donc là, on a affaire à quelqu'un qui tient le drapeau, une sorte de Marianne. Problématique quand même pour le coup, qui tient un drapeau, hein, voilà, pour justement faire de l'obésité un plan national de prévention contre l'obésité, avec un petit bedon qui dépasse. Mais là encore, ça ne concerne pas tout le monde. Hein, c'est quelque chose qui forcément écarte beaucoup de gens, voilà, qui ne sont pas peut-être d'origine française, qui ne sont peut-être pas voilà, de citoyenneté. Et ça renvoie donc Arnaud très bien, voilà, c'était super. Il y aurait le bon citoyen, le corps du bon citoyen ou de la bonne citoyenne, et puis le corps qui n'en ferait pas partie, voilà, et qui devrait revenir dans les rangs. Je vous montre celle de 2018. Donc, on continue hein, à être du côté des sirènes, des blondes. Hein, décidément, je pense que ce graphiste, voilà. Le bedon commence à être un peu plus important. Hein, donc, on a une espèce de fatting out, comme il y a des coming out de l'obésité, hein, c'est-à-dire où on a un corps qui se dévoile un peu plus. Et contre l'obésité, oser changer de vie. D'accord ? Donc là aussi, il y a tout ce déplacement qui est attendu de la part des personnes où ça reviendrait à elles de faire les choix et les bons choix de vie comme si ça ne reposait que sur elles. C'est-à-dire que dans le discours même, là, une fois de plus, c'est un discours d'hyper-responsabilité, hyper-culpabilisant Et là, j'ai tout un corpus de discours hein, que j'ai analysé sur des grandes revues de vulgarisation. Je pense au site Doctissimo, où à chaque fois, il est bien précisé que c'est aux femmes de prendre en charge leur santé et que si elles grossissent, c'est aussi pour des questions d'hormones. Voilà, c'est marqué. Donc là aussi, vous avez une vision voilà, qui se restreint, qui se ferme sur les individus autour de quelque chose comme ça, normé, genré, là-dessus. Que j'ai rajouté, celle de cette année. Alors, c'est la fée Clochette, hein, rose, encore une fois. Alors, là aussi, je, voilà. On reste quand même, comment dire, on vient nous parler, pour le coup, je me demande toujours, je suis quand même toujours curieuse de savoir, moi, qui vit en face. Je me dis, est-ce que ce type d'image, ça peut parler aux personnes obèses ? Je me dis, c'est quand même compliqué, parce que je ne vois pas, en termes de projection, comment elles peuvent comment on peut s'identifier, se reconnaître dans des femmes blondes, sexuelles, sexualisées, sur les affiches, et se sentir concernée, pour le coup, pour venir parler d'une souffrance, d'une pathologie, en lien avec l'obésité qui peuvent être vécues par ces personnes qui en souffrent. Voilà, je m'interroge là-dessus. Je me dis, est-ce que ça peut concerner les personnes qui ne se sentent pas obèses ? Voilà, et qui, pour le coup, se disent, bah, mais en fait, quand on regarde ces images, elles ont l'air de bien aller, la vie a l'air merveilleuse. Une baguette magique dans la main, des ailes dans le dos, et c'est parti, quoi. Voilà, donc, est-ce que... Et au final, je me dis, c'est des images qui ne concernent personne. Et qui ne touche personne, exactement. Voilà, c'est-à-dire, et on est toujours, et ça, pour en avoir discuté avec dans les entretiens qu'on menait avec Arnaud, dans les qu'on a pu faire sur les récits de vie, etc. Il est quasi 100% intériorisé par toutes les personnes qui souffrent donc de surpoids et d'obésité, que c'est leur faute. Je n'ai pas encore entendu une seule fois une femme me dire ah c'est pas ma faute. C'est toujours leur faute. C'est toujours parce qu'elles ont fait preuve de négligence. C'est toujours parce que elles sont nulles et qu'elles n'ont aucune volonté. C'est toujours parce que elles se promettent que la prochaine fois elles y arriveront. Cette fois-ci, elles vont tenir bon. Mais c'est parce que voilà, décidément, voilà, elles sont toujours dans un discours hyper dévalorisant d'elles-mêmes. C'est totalement intégré. Les collectifs eux-mêmes produisent des images où ils sont incapables de représenter des personnes grosses, réelles, concrètes, de la vraie vie. Ils sont obligés de nous présenter des personnes qui n'existent pas, des sirènes, des fées clochettes, des femmes qui n'existent pas, tant les imaginaires là-dessus sont à construire ou à modifier ou à bouleverser. Or, ces représentations-là sont bien entendu à la fois intériorisées dans les discriminations qu'elles vivent. Arnaud l'a dit, dans la rue, le nombre de discriminations est juste deux fois plus important chez les femmes qui souffrent d'obésité. Dans les boîtes de nuit, c'est 100% des femmes quasiment en boîte de nuit qui sont en surpoids ou obèses qui ont été agressées à minima verbalement. Les lieux de drague sont des lieux où, évidemment, elles n'ont pas leur place et où on leur appelle. Qu'est-ce que tu fais là, la grosse ? Et tu crois que tu vas te faire draguer ? Voilà, c'est forcément des lieux de rejet. Quand on dit que cette prise en charge ne peut pas, aujourd'hui, il est évident, il faut avoir conscience de ça, elle ne peut plus reposer sur le corps médical. C'est quelque chose qui déborde complètement. Mais quand vous allez dans les quartiers, dans les cités, dans les périmètres où il y a des lieux de sport, d'activité, puisqu'on en revient là-dessus, imaginons que ça serait ça, l'élément magique de résolution. Mais ce n'est pas des espaces pour les filles, c'est des espaces pour les garçons. Les cours de basket, etc., les éducateurs qui prennent, etc., il n'y a que des garçons. Les filles n'ont pas accès à ces espaces publics. Voilà. Et là, c'est là où tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est un cercle vicieux et où on retombe toujours sur la même chose. Voilà. 90% de femmes qui, elles, font le choix de l'opération. Voilà. Qui décident d'y aller. Tellement, voilà, c'est en boucle fermée. Une étude anglaise de 2016 a montré que les femmes souffrant de surpoids, dans le cadre de l'emploi, ont, j'ai plus les chiffres exactement en tête, c'est marqué dans mon papier, sont 40% voilà, plus discriminées que les autres femmes. Et alors, pour les hommes, on compte même pas. Hein, d'accord ? Lorsqu'elles font ces choix d'opération par la suite, quel est le premier critère qu'elles indiquent ? Celui de l'emploi. Elles n'ont pas accès à l'emploi. Et celui de la maternité. Et renvoyer également, et là tu as raison, de la pathologie totale, c'est que si elles ne tombent pas enceintes dans les 6 mois, c'est parce qu'elles sont en surpoids. C'est d'abord et toujours et avant tout, tout est ramené à la question du poids. Voilà, commencer par maigrir, tout passerait par cette question-là. Pour le coup, il n'y a pas d'autres explorations qui sont faites, on commence par poser cette assignation. Dans les études, dans le suivi que j'ai pu faire de ces patientes également, même dans le parcours bariatrique, donc dans ce parcours pour aller vers une opération de l'obésité, dans l'équipe de pluridisciplinaire de prise en charge, beaucoup expliquent que la diététicienne, c'est un espace qui peut être compliqué selon la personne que vous avez en face. Et beaucoup rapportent qu'on leur a demandé de commencer par perdre 4 à 5 kilos pour prouver leur motivation à vouloir maigrir, à se faire opérer. Faites donc la preuve de la réussite de ce qui est votre échec. Vous n'arrivez pas à maigrir, commencez par maigrir pour pouvoir ensuite accéder à quelque chose. Voilà. Donc on a quelque chose aussi qui tout le temps renvoie dans une spirale de l'échec. Or, on sait bien qu'un patient, il faut qu'il adhère au parcours de soins. Là, vous avez bien compris, bien au-delà d'une opération, mais sur un parcours de vie, on est bien d'accord sur un changement de vie, sur un parcours de vie. Comment voulez-vous qu'il adhère s'il le vit toujours comme étant l'ultime chance, le dernier espoir, l'opération de l'échec parce que la personne se sent dévalorisée, démotivée et se considère comme nulle ou comme allant vers la facilité parce qu'elle n'a pas su faire autrement. On ne parle pas, en disant ça, chez les diététiciennes, il y aurait quand même une étude formidable à faire. Comment vivent-elles l'échec de suivre peut-être pendant 20 ans des patients que finalement elles n'arrivent jamais à faire maigrir ? Parce que quand même, dans une opération, dans un régime, disons-le, un régime, c'est quand même 90% qui regrossissent, toujours, quel que soit le régime. Et le premier régime commence toujours par faire regrossir les suivants. Un régime amène toujours ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on change les mots, on parle plutôt de rééquilibrage. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, sortir de la question de la restriction, qui a fait, donc je le redis, et qui continue à faire, malheureusement, le lit de tous les troubles alimentaires, des anorexies, etc., et des boulimies, pour maintenant parler plutôt d'une question de rééquilibrage. Moi, je ne sais pas si je vous dis autre chose, je vais conclure presque là-dessus. Une des dernières choses qu'on peut dire, c'est que, à la fois du côté des enquêtes épidémiologiques, donc on nous renvoie un stéréotype de genre, voilà, qui est circonscrit, du côté des représentations, même officielles, des campagnes officielles, également, on est dans quelque chose de très discriminant, avec donc tout cet impact sur la difficulté, pour le coup, justement, de capter ces personnes et de les aider, de les accompagner dans un soin, dans un meilleur changement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Excusez-moi, j'ai perdu mon mot.
Il va être donc temps d'échanger peut-être avec la salle. Juste avant, juste un petit éclairage ou œil médical. Juste pour dire que bien sûr, la médicalisation complète de l'obésité est probablement à double tranchant. Mais néanmoins, je pense qu'elle permet aussi peut-être une prise en charge parfois plus globale, plus multidisciplinaire de cette maladie chronique. Et que par là même, on peut quand même garder de l'espoir. Finalement, cette médecine de l'obésité, elle est récente. Ça fait peu de temps que les étudiants en médecine, en particulier, ont un enseignement à proprement parler au cours de leurs études sur la régulation de la prise alimentaire, puis sur l'obésité. Et peut-être que finalement, le fait d'enseigner la prise en charge de cette maladie, on l'espère, va pouvoir changer les regards, alors peut-être pas les regards de la société, mais déjà les regards de tous les professionnels médicaux et paramédicaux qui sont quand même amenés à prendre en charge et à s'occuper de ces patients. Donc je garderai quand même un petit espoir dans le sens de la formation.
Juste peut-être poser un petit peu une question sur comment vous voyez l'évolution de la grossophobie, parce que finalement, quand on discute avec nos amis, ils ne connaissent pas ce mot-là. Je me suis rendu compte en parlant avec mes amis de la conférence qu'on a organisée ce soir, que finalement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le mot, qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Comment vous voyez un petit peu les choses au niveau de l'évolution dans la société française ?
Quand il y a société dans la phrase, elle me tend le micro en général. Il y a des mots-clés comme ça. Sensible, elle répond. Société, c'est moi qui réponds. Alors, je crois qu'on est en train de tracer ce chemin ambivalent entre nécessité de médicaliser, au sens où, quand on dit pas que c'est une maladie, on reste du côté de la culpabilité, en tout cas pour l'obésité, et ce qui n'est pas la même chose pour les personnes grosses. Où là, pour le coup, la déprise vis-à-vis du champ lexical de la maladie semble s'opérer. Donc voilà, là je crois qu'on est vraiment dans un effet de va-et-vient, un effet de bascule, dont l'issue est encore incertaine. Alors si on regarde d'autres phénomènes, comme par exemple la dépathologisation ou la démédicalisation, en tout cas la dépsychiatrisation, de parcours comme les parcours de changement de genre, d'ailleurs, associations trans et associations de personnes grosses se tiennent la main souvent dans leur mobilisation, dans leur vocabulaire. On peut donc, mais je suis sociologue et je ne suis pas cartomancienne, faire l'hypothèse d'une plus grande compréhension d'abord de ce que c'est que la grossophobie, d'une meilleure prise en charge médicale, pour ne pas dire médicalisation totale, de l'obésité, et d'une démédicalisation des représentations des corps gros. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, c'est encore un peu tiraillé. Il me semble toutefois que sur la grossophobie, si on dit phobie, on dit les peurs, on dit aussi ce que ça provoque, et on dit aussi la défense des gens qui vivent ça, qui subissent ça. Et là, en droit, on est un peu pieds et poings liés face à des critères juridiques et des jurisprudences qui ne nous permettent pas d'avancer pour défendre les personnes victimes de grossophobie. Alors, on le sait, l'histoire des discriminations, c'est l'augmentation tendancielle des critères. En 2008, il y avait 18 critères de lutte contre les discriminations. En 2012, il y en avait 20. Aujourd'hui, on est à 25, bientôt 26. Et on sait qu'il y a des critères qui apparaissent, en tout cas dans le vocabulaire militant, dans le vocabulaire des personnes concernées, parce que le droit ne recouvre pas leurs expériences. Alors, on peut en citer quelques-unes de ces terminologies. L'islamophobie. Parce que l'islamophobie, ce n'est pas que du racisme. On peut en penser une autre. La gérontophobie. Oui, parce que les discriminations à l'âge, c'est aussi les discriminations pour les personnes âgées. La grossophobie. Oui, parce que les discriminations à l'apparence, ce n'est pas que les jeunes qui se font harceler dans les collèges et lycées. Donc, est-ce qu'en créant de nouveaux mots, on créera de nouveaux droits ? La réponse, on la connaît, c'est non. Mais en matière de reconnaissance, est-ce que créer ces nouveaux mots et les incorporer au droit, au système juridique, est-ce que ce n'est pas une manière quand même de dire, attention, aux personnes discriminantes notamment, attention, la peine a changé de camp ? La peine n'est plus du côté des personnes victimes qui sont coupables, la peine est du côté des personnes qui discriminent et qui sont aujourd'hui en possibilité d'être traduites devant les tribunaux. C'est du symbole, et en même temps, si pour quelques cas ça fonctionne, je me demande si ce n'est pas un symbole par lequel il faudrait passer.
On va donc conclure cette soirée. Je remercie encore une fois Arnaud et Marielle pour leur présence parmi nous. Puis je vous remercie bien sûr pour votre présence ce soir. Merci.